c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'actualité locale et régionale. Une actualité présentée ce matin par Frédéric Dodd. Bonjour Frédéric.
Bonjour Joël, bonjour à tous. Et dans l'actualité de ce jeudi 24 novembre, la mauvaise nouvelle de l'hiver pour les patineurs et autres hockeyeurs. Il n'y aura pas de glace à la patinoire. Trop de fuites dans le système de froid. Flavie Brie va faire le point pour nous et nous entendrons aussi la réaction des associations utilisatrices. La question de la santé sur l'archipel. Notre rédaction consacre ce soir son émission Ça vous regarde aux évacuations sanitaires qui ont largement fait parler d'elles depuis 10 jours. Comment améliorer un système parfois défaillant? Présentation de l'émission avec Isabelle Tomelin. Santé toujours avec une après-midi portes ouvertes à l'APS. Demain, l'association Action Prévention Santé à Saint-Pierre. L'occasion de découvrir la nouvelle structure, le XAPA, et les nouveaux locaux qui accueillent une équipe pluridisciplinaire. Dominique Delizaraga, la responsable, va nous parler de tout ça en fin de journal.
Et puis, tout de suite après ce journal, rendez-vous avec Annick Girardin, la ministre de la fonction publique, qui est notre invitée ce matin à l'occasion de la semaine de la fonction publique sur l'archipel.
Mais d'abord donc ce coup de massue sur la tête des usagers de la patinoire de Saint-Pierre. Pour la première fois en 32 ans, il n'y aura pas de glace cet hiver. Après le diagnostic de ces derniers jours, les techniciens l'ont annoncé hier. Les fuites de liquide refroidissant sous la dalle sont trop nombreuses. Une information transmise hier soir aux différentes associations concernées. Elles étaient rassemblées à la cafétéria de la patinoire. Réunion suivie pour nous par Flavie Brie.
Il est 18h, la nouvelle tombe, c'est Bernard Briand, en charge du pôle attractivité du territoire, qui l'annonce.
Donc on a mené des investigations sur ce qu'on avait des sections, sur les épingles. Il s'avère, pour être très technique avec vous, parce que vous allez vite comprendre, en tout cas sur trois sections, la 14, la 15 et la 16, il y a des fuites qui sont apparentes en tant que telles. Et il s'avère que si sur une section il y a un problème, c'est pas grave, on arrête la section, on reprend sur une autre et on joue sur un jeu. Voilà. Aujourd'hui, sur les trois sections, ça veut dire qu'il peut y avoir une mise en glace sur les côtés, mais en gros, ce serait du slush en plein milieu. Donc la décision qui a été prise, c'est d'arrêter ces recherches de fuite, puisque de toute façon, on ne peut pas travailler sur du colmatage, c'est pas possible.
Derrière cette décision, plusieurs questions se posent pour les associations sportives.
C'est bien, Bernard, leur difficulté maintenant pour trouver du monde, trouver des entraîneurs. Nous, c'est dans l'air vide, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On dissout un club, on arrête, c'est la fin du patinage artistique, c'est la fin du hockey. Je veux dire, c'est super compliqué derrière. On a conscience que tout c'est compliqué, mais je pense qu'à un moment donné, on trouve des urgences pour certaines choses. On peut peut-être aussi trouver des urgences dans le club. Ça fait quand même depuis plusieurs mois qu'on pointe. Aujourd'hui, c'est ce qu'on en est là. Quoi.
Une fermeture pour toute la saison, une décision décevante pour la collectivité. Bernard Briand, en charge du pôle attractivité du territoire à la collectivité.
Bon, on a cherché durant près de trois jours. Le constat aujourd'hui, c'est que les fuites sont trop nombreuses pour espérer une mise en glace. Ça, c'est un constat d'autant plus regrettable. C'est qu'on nous avait préconisé de réaliser un certain nombre de travaux 2015, 2016 et 2017. Et en aucun cas, le bureau d'études spécialisé, lui, a démontré la nécessité de réeffectuer des travaux sur la dalle. Donc ça reste extrêmement consternant, pénalisant pour, je dirais, toutes celles et ceux qui utilisent la structure. Et aujourd'hui, la collectivité n'en peut être que totalement désespéré en tant que tel, puisque si on nous avait préconisé ce type de travaux au préalable, eh bien on les aurait effectués.
Des travaux d'ampleur sont donc à prévoir, détruire la dalle de béton, changer l'intégralité des tuyaux et recouler une nouvelle dalle, un chantier de 6 mois environ, pour un coût estimé à 1,5 million d'euros.
Oui, et puis cette non-ouverture de la glace à la patinoire, c'est une décision évidemment qui déçoit les associations, que ce soit pour le hockey, le patinage, le curling. Elles l'ont dit au micro de Flavie Brie, interview hier soir à la sortie de la réunion.
C'est une déception, c'est certain. Ce sera plus une déception pour les adhérents qui attendent l'ouverture depuis la fin de la saison de l'année dernière.
Anne-Laure Martineau, présidente du club de patinage artistique.
En plus, on avait fini en beauté avec l'équipe de France. Donc évidemment, ça avait donné envie à plein de nouvelles personnes en plus de faire du patinage. Donc c'est vrai que c'est triste. Après, au niveau de l'organisation du club, ça pose de gros problèmes parce que les licences ont déjà été prises, les cotisations, on avait une tombola qui était en cours. Enfin, énormément de choses, énormément d'administratif à faire, des remboursements, comment est-ce qu'on va faire avec tout ça, quoi. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Et puis l'entraîneur qui est là, c'est pareil pour le hockey mineur. Qu'est-ce qu'on va faire avec les entraîneurs? Comment est-ce que ça se passe? Beaucoup de questions, on attend beaucoup de réponses, mais on va être soutenu quand même par conseil territorial. Ils vont nous suivre, donc voilà, on espère que les choses vont s'arranger au plus vite, mais c'est surtout pour les enfants, quoi. On est triste.
On inscrit quand même 120 gamins, plus 30 adultes. dans une saison du hockey mineur.
Claude Janil, président du hockey mineur.
Les enfants n'auront pas de patinoire, ils vont... Qu'est-ce qu'on va faire ? Exactement, écoutez, on fera une réunion de bureau dans la semaine pour savoir exactement de quelle façon on va agir. Je ne suis pas tout seul dans le hockey mineur. On prendra une décision et puis on fera une démarche à suivre. Sachant qu'au niveau des licences, j'avais quand même pris un petit pas d'avance. J'avais contacté le directeur de la fédération de hockey sur glace. J'avais parlé avec lui longuement. Que les dernières licences sont bloquées. Il n'y a aucun encaissement qui a été fait et toutes les licences nous seront remboursées en intégralité.
L'entraîneur, il va falloir lui annoncer la nouvelle.
Vous dire exactement qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de l'entraîneur, j'en sais rien du tout. L'avenir nous apprendra le reste. J'espère que les familles vont comprendre. Ça va être difficile. Une patinoire non ouverte à Saint-Pierre, ça s'est pas souvent vu.
C'est une déception pour le hockey Fulmar aussi.
Évidemment. Évidemment, puisque c'est du hockey loisir, on est toute une bande de potes qui, ben voilà, on voulait tout simplement profiter de la glace, s'amuser un petit peu, et puis pour certains évoluer un petit peu au niveau du hockey.
Olivier Lepape est lui représentant pour le hockey Fulmar.
Bon, après il y a quelques petits agréments, voilà, des achats d'équipements pour ceux qui vont bientôt partir. Je pense notamment à nos militaires du Fulmar, tout simplement. Pour qui il reste qu'une seule année, ils ont eu quelques investissements et puis bon, du coup ça tombe un petit peu à l'eau. J'ai surtout une pensée pour l'équipe des Harfons, l'équipe féminine, une bande de femmes qui étaient vraiment très motivées, qui ont mis des actions en place, qui ont monté leur association, qui se sont battues pour avoir un créneau. Et bah du coup là effectivement ça tombe également à l'eau, donc c'est très décevant, oui, effectivement.
Une info-service qui concerne les habitants de Miquelon. Sachez que la permanence du service famille de la CPS prévue ce jeudi est reportée à une date ultérieure.
Frédéric, c'est le sujet d'actualité ces derniers temps dans l'archipel, la santé et en particulier les évacuations sanitaires.
Après les dysfonctionnements rencontrés ces derniers jours par plusieurs patients de l'archipel évacués vers l'hôpital de Moncton, notre rédaction fait le point sur ce dossier ce soir sur SPM Première, la télé. Des reportages exclusifs, des invités. Peut-on avoir confiance dans le système de soins extérieurs mis en place pour les patients de l'archipel? Comment l'améliorer? Ça vous regarde, spécial santé. Et ce soir, une émission qu'animera Isabelle Tomlin. Elle nous livre le programme.
Alors ce soir, on va s'intéresser très précisément à la problématique des EVASAN. Ces dernières semaines, on l'a vu, plusieurs patients ont rencontré des difficultés et ont vu leur parcours de soins interrompu à la dernière minute. Alors cela pose plusieurs questions. Comment sont organisées ces évacuations sanitaires programmées? Comment se déroule une commission médicale? Quid du choix de la destination? Est-ce que le principe de libre choix du patient est respecté? Quels sont les établissements partenaires, que ce soit en métropole ou au Canada? Vous entendrez pendant cette émission plusieurs témoignages d'habitants de l'archipel qui ont dû partir pour se faire soigner. Et cela ouvre la porte à une discussion autour de l'offre locale de soins. Qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer, notamment pour privilégier une prise en charge sur place? Alors, toutes ces questions, nous tenterons d'y répondre avec nos invités en plateau. Il y aura Jacqueline André, présidente du conseil d'administration de la CPS, le docteur Patrick Perrin, qui est le médecin conseil, le docteur Olivier Rioux, président de la commission médicale, Emmanuel Kiss de Montgolfier, directeur de l'ATS, et puis Stéphane Clairaut, député de l'archipel. Et puis, surtout, n'oubliez pas, vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Vos questions seront relayées en direct, mais vous pouvez dès maintenant nous les envoyer via notre page Facebook en cliquant sur l'onglet « Contacter ». L'anonymat sera respecté.
Ça vous regarde, spécial santé, émission ce soir à 20h30 sur SPM Première, la télé. La santé au Canada également dans l'actualité ce matin et les délais de prise en charge des patients montrés du doigt dans les provinces atlantiques. Selon une étude publiée hier par l'Institut Fraser, le temps d'attente moyen pour un traitement spécialisé est de 26 semaines à Terre-Neuve, 35 en Nouvelle-Écosse et 39 au Nouveau-Brunswick. Ce sont de loin les délais les plus longs enregistrés au Canada.
On reste dans le chapitre de la santé, Frédéric, avec une opération porte ouverte demain après-midi à Saint-Pierre, dans les nouveaux locaux de l'APS, l'association Action Prévention Santé.
L'association a en effet déménagé dans un espace plus retiré du centre-ville et plus vaste, doté d'une équipe pluridisciplinaire. Alors quels sont les objectifs de la rencontre de demain? Écoutez Dominique de Lizarraga, elle est la responsable de la nouvelle structure.
Cette journée porte ouverte donc sur la demi-journée de ce vendredi de 14h30 à 17h. C'est pour permettre à la population aussi, étant donné que nous avons changé de local, de nous situer donc au 26 rue Abbé Pierre Gervin. Et permettre aussi, justement, puisque l'association qui gérait un centre de cure ambulatoire en alcoolologie depuis 2004 s'est vue transformer donc en janvier 2016 en XAPA, donc centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addictologie. Du coup, l'équipe s'est agrandie. Nous avons une équipe pluridisciplinaire composée donc d'un travailleur social qui va être récemment recruté, d'un temps infirmier, d'un temps médecin addictologue, d'une psychologue.
Alors, ce qui fait au total donc un effectif de vous passer à...
Nous étions trois et aujourd'hui nous sommes une équipe de sept.
Finalement, donc alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont y découvrir par exemple ?
D'abord, on pourra leur présenter donc le local, présenter l'équipe et à quoi on peut répondre aujourd'hui. Parce que au départ, donc l'association qui gérait le CCA, on a répondu principalement à des difficultés en alcoolologie. Aujourd'hui, le XAPA a pour objectif d'être centre référent en addictologie sur l'archipel et donc de répondre à toutes les addictions.
Dominique de Lizarraga, la responsable de la PS, elle répondait à Ibrahim Amedazi. Les professionnels vous recevront donc demain entre 15h30 et 17h dans les locaux du 26 rue Abbé Pierre Gervin. Et un numéro de téléphone, si vous souhaitez en savoir plus, c'est le 41 05 50. Deux informations. D'abord, pour la deuxième année, ouverture demain du Salon des métiers d'art et de l'artisanat à la Cassima. Les artisans locaux exposent leur savoir-faire. C'est de 18h30 à 22h avec une animation musicale d'Alexandra Hernandez. Et puis encore samedi, toute la journée, de 10h à 19h. Et le Père Noël sera même présent en milieu d'après-midi. Et puis ce rendez-vous pour cet après-midi. Notez que notre chaîne diffusera tout à l'heure en direct le second débat des primaires de la droite et du centre. Le duel de second tour entre les deux candidats encore en lice, François Fillon et Alain Juppé, à l'initiative de TF1, France 2 et France Inter. C'est à 16h50 en direct donc sur SPM Première, la télé.
Il est 7h13, Frédéric, place à l'information nationale et internationale, un aperçu.
Oui, dans l'affaire de la série d'attentats déjoués, la garde à vue des 5 suspects est prolongée de manière exceptionnelle au-delà des 96 heures légales pour répondre à la menace d'un attentat imminent. À Paris, la place de la Concorde bloquée par des forains en soutien à Marcel Campion, le propriétaire de la Grande Roue. Ils sont une soixantaine de poids lourds. Celui qu'on surnomme le roi des forains doit démonter son attraction pour occupation illicite sur un site classé. Jacqueline Sauvage, fixée sur son sort tout à l'heure, condamnée à 10 ans pour le meurtre de son mari et partiellement graciée par François Hollande, la sexagénaire va savoir si elle obtient sa sortie de prison. À l'étranger, en Chine, au moins 67 morts ce matin dans un accident sur le site d'une centrale électrique. Une plateforme en construction s'est effondrée. Le gouvernement colombien signe un nouvel accord de paix avec les FARC. Après le rejet par référendum de la version précédente du texte, c'était en octobre, des changements ont été apportés à ce traité historique.